Bonjour tout le monde, bienvenue à Aime la vie, Emmanuelle Robitaille, maintenant avec vous, qui a repris le flambeau magnifique de Kevin et Clotilde, pour reprendre, à bras levés cette émission, mais je le ferai pas seule. En très grande et très belle compagnie, je le fais chaque semaine avec Monsieur Robert Blondin. Robert, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là.
Tellement heureuse, je pense qu'on va vous amener à voir la vie avec des yeux, parce que la beauté est dans celui qui regarde, les yeux de celui qui regarde, la beauté est partout. Et des bonnes nouvelles, il y en a. Le monde est beau, le monde va bien, et on est ici pour vous le communiquer chaque semaine. Bienvenue à Aime la vie. Et pour commencer, cette semaine, on parle des bonnes nouvelles qui nous entourent, on parle de ce qu'on a appris qui nous fait du bien, qui est rafraîchissant, qui est le fun à entendre. Bonne nouvelle pour la planète, pour nos portefeuilles, parce qu'on parle trop souvent de surconsommation, pas assez de consommation responsable et consciente. Depuis le mois de juin, les consommateurs soucieux de se procurer des aliments sains à bon prix peuvent mettre la main sur une variété de fruits et légumes frais grâce à la nouvelle gamme québécoise Hors la loi, une initiative de Joël Lalancette, un producteur de Pierreville. Il y a des aliments moins beaux et moins chers qui nous fait économiser pas moins de 30 % sur le prix initial d'un même produit. Au revoir perfection, au revoir gaspillage, merci pour le résultat. Qu'est-ce que tu en penses, Robert?
Ben, c'est pas parce qu'une tomate n'est pas complètement ronde qu'elle n'est pas bonne, là. Ça n'a rien à voir.
D'ailleurs,
c'est pas parce que quelqu'un n'est pas particulièrement beau qu'il n'est pas intéressant non plus, c'est la même chose.
C'est la beauté intérieure. Ouais. Ben, on se comprend-tu qu'elle va pas, l'apport nutritionnel va rester le même? Est-ce qu'on inventait que ce besoin de perfection-là était chez les gens, tu sais? On est prêt à ça.
Ça vient un peu du puritanisme en ça. On veut que tout soit parfait, qu'on soit parfait. Pourquoi on se regarde dans le miroir avant de sortir une tomate?
On va être cute.
On voudrait que la tomate fasse la même chose.
Est-ce que tu vas en consommer de cette nouvelle gamme? Tu serais prêt, toi, pour économiser 30%?
Bien sûr.
Tout à fait. C'est disponible www.horslaloi.ca pour en savoir plus. Bonne nouvelle pour les amateurs de café, Robert. Es-tu un amateur de café?
Ben oui, mais du vrai puis du bon.
Ben c'est ça. Hein? Moi aussi, j'en ai un d'ailleurs. Avec moi, il est en après-midi. C'est peut-être pas bon pour moi, mais je vous garantis que chaque chose a du bon. Il y a de nombreuses études récemment qui sont parues qui indiquent que la consommation régulière de café est associée à une diminution du risque de mortalité prématurée, pourrait aussi prévenir les récidives chez les patients ayant survécu à un infarctus. C'est les composés phytochimique de la caféine, et donc pas la caféine en tant que telle, parce que... Puis phyto, Robert, ça vient de plante, tout simplement. Donc c'est l'aspect de la plante qui nous aide. Donc on peut pas aller chercher ces bienfaits-là dans des boissons énergétiques ou des substituts à la caféine. On retrouve ces bienfaits-là chez le café décaféiné également. Mais c'est bon.
Il faudrait parler un peu du café, parce qu'il y a une espèce de mythe autour du café que c'est très mauvais pour la santé.
Mm-hmm.
C'est souvent le cas.
Voudrions-nous le faire pire
café, celui qui est dans la salle à café de tous les commerces et des industries, là, bon, et qui est là dans sa cafetière du matin jusqu'au midi, jusqu'au soir, celui-là est extrêmement nocif pour la santé. Le seul qui n'est absolument pas zéro moins zéro nocif pour la santé, c'est l'espresso, à condition qu'il soit passé en dedans de 18 secondes.
La torréfaction et la façon de préparer notre café.
Il
n'y
a pas de problème sur la torréfaction.
Okay.
C'est dans le passage de l'eau chaude que sortent des toxines. S'il y en a. S'il n'y en a pas, tant mieux.
Mm-hmm.
Mais s'il y en a, dans un espresso à moins de 18 secondes, vous n'avez aucun effet négatif du café.
Merci pour ce bon café qui sera maintenant consommé avec gratitude et bonheur. Sais-tu? Bonne nouvelle également pour la dignité des gens en fin de vie, Robert. La loi concernant...
Pourquoi tu dis en fin de vie, Robert? C'est quoi ça?
Robert, écoute-moi, je veux que t'entendes cette belle nouvelle.
Oui.
Parce que c'est une loi qui concerne les soins en fin de vie. Ça a donné lieu à de nombreux débats depuis de longues années d'incertitude. 2 ans après son adoption, selon le rapport de la commission qui porte le même nom, 638 personnes ont eu recours à l'aide médicale à mourir au Québec en 2016 et 2017. Donc, mourir dans la dignité, constitue maintenant pour notre société une avancée qui est claire, qui est présente, qui, dont les gens profitent. Malheureusement, l'actualité est souvent tournée sur l'avant, les CHSLD, le mauvais traitement chez nos personnes âgées. Est-ce qu'on peut parler maintenant qu'on retrouve le pouvoir sur notre fin de vie ici et que ça se fait, là?
Théoriquement. Mm-hmm. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés à le faire. Quand tu regardes ce qui se fait ailleurs, au Canada, en Ontario en particulier, ils ont beaucoup plus de facilité à le faire. Ici, il y a toujours un comique, un MD quelque part, là, qui, lui, n'est pas d'accord pour toutes sortes de raisons et ça retarde le processus. J'ai un cas récent en tête d'une amie. Tout était arrangé. Même les gens étaient convoqués à une cérémonie magnifique en blanc. C'était superbe comme organisation. Mmh. Et à la dernière seconde, il y a un des médecins qui a dit « Ah, je suis pas sûr ». Et ça a duré 5-6 jours pour que cette personne ne
décède. Mais qu'est-ce qui était l'assise de cette hésitation-là? Parce que moi, je sais que...
Les soi-disant convictions du médecin.
Ah oui? Parce que je sais que le consentement éclairé de la personne est extrêmement important, mais non, la conviction
quand tout
du
ça
médecin...
est là, et que, parce qu'il y a deux médecins qui doivent signer, mais quand un des deux se fait tirer la langue, pendant ce temps-là, l'indignité s'installe à la place de la dignité. Quand on veut, on devrait pouvoir l'avoir. C'est au patient à décider, patient qui est bien sûr conscient.
Mais là, j'entends du moins que... Cette loi-là s'en va vers ce désir personnel et il est applicable.
Ouais, la loi, oui. Ouais. Mais parle à des médecins et certains médecins plus âgés en particulier, pas si évident que ça.
Pas toujours. Non. On n'a pas toujours la même vision des choses. Et on continue dans les bonnes nouvelles de ce monde que je trouve magnifique dans lequel on vit. L'organisme Tapage. L'organisme, oui, Spectre de rue et qui endosse en fait le projet ou le programme Tapage, c'est quelque chose qui rend notre société toujours plus belle en offrant à des gens qui sont en dehors du système, je dirais, du travail pour des raisons qui sont psychologiques ou physiques, émotionnelles, de faire un retour en se réalisant. Et on a ici M. Jean-Denis Mahoney qui est... coordonnateur du programme Tapage qui vient nous parler. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bienvenue.
Mais ah, ça, c'est comme quand on va au restaurant puis qu'on dit bon appétit puis on dit bon appétit.
Il nous souhaite bienvenue dans son monde, finalement. Ben,
tout à fait. Puis on est content d'y être parce que c'est un très beau monde. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de Tapage qui a commencé dans les années 2000 au départ?
Oui, c'est ça. C'était, pour faire un bref topo sur Spectre de rue, disons que nous, on est préoccupés de questions d'intégration sociale à différents niveaux. Notamment, vous avez peut-être entendu parler de nous parce qu'on a mis sur pied un des fameux sites d'injection supervisée, service d'injection supervisée, pardon, qu'on a à Montréal. On fait du travail de rue, du travail de milieu, toujours dans le but de favoriser une saine cohabitation entre les gens qui composent notre clientèle, donc des gens aux prises avec des grandes difficultés, notamment la consommation de stupéfiants, la santé mentale, l'itinérance.
L'itinérance coaching, d'ailleurs, prostitution, il y a beaucoup de gens que vous avez été chercher qui survivaient littéralement par ces moyens-là et qui vous leur avez offert une alternative et ça très bien fonctionné.
C'est ça. Ça le dit dans l'intitulé, Tapage, ce que ça veut dire, travail alternatif payé à la journée. Alors nous, on s'impose pour les jeunes de 16 à 30 ans comme une alternative à la pratique des métiers de la rue. C'est un support économique ponctuel par lequel on veut arrimer les jeunes sur des solutions dans leur vie lorsqu'ils nous en font la demande. Donc c'est a priori, la base du projet est comme non interventionniste, puisqu'on force absolument rien. C'est sans condition. Les jeunes qui viennent travailler... Mais là, je mettrai un bémol tout de suite, là, parce qu'on a comme deux volets. On a un volet de travail à la journée pour tous, 16 à 30 ans, en toutes conditions, connaissant toutes sortes de difficultés. Donc, un jeune peut venir travailler s'il a consommé des stupéfiants, il n'a pas dormi depuis deux jours. Il n'a pas besoin ni d'avoir de carte.
Quand vous dites travailler, là, ils font quoi?
C'est des courts plateaux de travail de 2h30 d'implication dans la communauté. Fait que l'idée, là, c'est de mettre les jeunes au service du territoire qui les abrite et pour lequel ils n'ont pas souvent, de regard amoureux parce qu'ils se retrouvent à errer au centre-ville puisque les ressources pour les jeunes sont là, puisque... c'est un lieu où quêter peut s'avérer profitable, mais ils ne développent pas de sentiment d'appartenance particulier avec le territoire.
Ils font ça comment? De
déneigement, par exemple, cet hiver?
Oui, ben, le déneigement, ça, c'est nouveau, mais le fer de lance, oui, pardon, pour répondre à la question, le fer de lance de tapage, c'est l'assainissement des ruelles. Puis ça, c'est venu à la suite d'une étude qui a été commanditée par la Ville de Montréal et qui avait été donnée à Aspect de... dont le mandat avait été confié à Aspect de rue. L'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire des jeunes qui font du squeegee à tous les coins de rue. Dans les années 90, c'était une problématique beaucoup plus endémique que maintenant. Mm-hmm. Et la recommandation que Aspect de rue a mise sur pied, c'était il faut une banque de travail adaptée à ces jeunes-là. Et... au départ, on allait laver les vitres des commerces désaffectés. Les jeunes amenaient leur squeegee. Ça a entraîné...
C'est toujours ça formidable, parce que c'est comme un renversement de situation. Là où ils vont s'asseoir, dormir ou triper, finalement, au même endroit, ils s'en vont nettoyer.
Absolument. Puis maintenant, c'est encore plus vrai, parce que les jeunes qui sont plus autonomes ou qui sont rendus là dans leur vie... qui peuvent donc faire du travail sans supervision directe constante, mm-hmm. qui ont, disons, leur consommation
contrôlée,
dans une certaine mesure, bénéficient d'heures de travail dans ce qu'on appelle la brigade de propriété de Centre-Sud. Puis ça, c'est commandité par la Ville de Montréal. Les jeunes sont au service de la communauté, ils font le ménage des rues. Vous aurez l'occasion de les voir... rue Ontario, Maisonneuve, Berry, Saint-Hubert, les Grandes Artères et le Village Gay.
Ces jeunes-là, vous changez leur vie. C'est quoi le retour qu'ils vous donnent? Qu'est-ce que vous changez dans leur vie? Qu'est-ce qu'ils choisissent de changer eux-mêmes et à travers vous, tu sais?
Je dirais que l'essentiel du changement ne s'opère pas nécessairement quand le jeune est au programme, mais quand il en sort, pour une bonne ou une mauvaise raison, il reste que l'expérience contractée avec nous. Ça laisse des traces. Puis plus l'expérience est longue, l'expérience d'un horaire de travail, de devoir attendre à une journée fixe pour avoir sa paye, si on est au volet 2, le volet pour les jeunes plus autonomes, on va le mettre comme ça, à ce moment-là, ça reste avec eux. Puis quand ils arrivent dans un milieu de travail, quand ils ont la piqûre pour quelque chose, que ce soit au plan des études, ils comprennent, je dirais, ils comprennent mieux la valeur d'un travail
régulier.
Oui, exactement.
Une routine, une structure, je dirais
tout
même.
À fait. Structurant. Et éventuellement, c'est ça qui porte ses fruits. Puis, il arrive que des jeunes qu'on n'a pas vus depuis un an ou deux arrivent. Puis là, ils ont eu un changement significatif dans leur vie. Ils ont peut-être eu un enfant. Ils ont peut-être eu une blonde, une expérience de travail.
Est-ce qu'il y en a qui sont réticents à participer à votre programme?
Non. Il y en a qui n'aiment pas franchement le type de job qu'on leur propose, parce que j'ai parlé brièvement de l'assainissement des ruelles. Ça veut dire suppléer à ce que les citoyens devraient faire, donc se concerter, prendre soin d'un espace public qui est accessible à tous, mais qui doit être entretenu par les citoyens, parce que la ville ne le prend pas à charge. Puis là, on ramasse et les déchets, mais aussi les traces de consommation de drogues injectables. Fait que des fois, c'est confrontant pour des jeunes. J'ai oublié de le mentionner, le cœur philosophique du programme, c'est de travailler au coude à coude avec les jeunes. Donc, si on accompagne un groupe, on fait exactement les mêmes tâches qu'eux. Alors, tu sais, on ne se positionne jamais comme des contremaîtres. On n'est jamais distant vis-à-vis de la tâche à faire.
Il n'y a pas de relation d'autorité.
Il y en a une, mais l'idée, c'est quand même d'atténuer ça, de susciter la confiance, la confidence, la discussion lorsqu'on partage le labeur et ce qui s'ensuit.
Et on parle de ces jeunes-là, et je veux vous demander également, vous, en tant qu'humain, de vous investir dans un projet comme ça. Qu'est-ce que ça vous apporte?
Pour continuer sur ma lancée où je m'étais interrompu, quand un jeune revient au programme, puis il me dit nommément « t'as changé ma vie
», c'est pas petit, là?
Non, c'est pas petit, puis on n'a aucun moyen de le savoir avant qu'un jeune nous revienne, puis qu'il nous le dise. Puis, parce que souvent, c'est ça, le lien s'est rompu. Ils ont souvent peur de revenir vers nous après un échec dans leur contrat de travail. ils ont honte, ils pensent qu'on les juge très fort, même si on les assure que non, il n'y a pas de jugement à la clé, puis que c'est normal de devoir poser les jalons les uns après les autres, puis au rythme qui leur convient.
Et ceux qui prennent la peine ou qui traversent cette barrière-là, qui viennent vous donner ça, c'est votre
Ouais, c'est votre moi, trophée, c'est ce qui fait une grande différence dans mon travail.
Est-ce que je peux répondre avec et pour lui, puis avec moi seulement?
Ah, mon Dieu, tu fais tout ce que tu veux, Robert.
Parce qu'on n'est pas du même âge, moi, c'est le dernier des âges. C'est tout ce qu'il y a derrière ça, c'est d'être utile à des gens. On va reparler souvent à cette émission, vous allez voir. C'est la base du bonheur, c'est d'être utile aux autres.
Le sentiment
d'utilité. Ces gens-là sont utiles aux autres. Et des fois, ça m'est arrivé à moi, des gens qu'on aide plus ou moins volontairement à la lecture d'un livre ou autre chose, à la radio, comme on faisait à l'époque. Et 40 ans, 50 ans après, vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Vous avez fait la différence dans ma vie il y a 40 ans. » Vous n'avez pas vécu pour rien. C'est exactement ce qu'ils font, ces gens-là.
Tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord. Et vous ne le faites pas pour rien parce que actuellement, on sait que le programme Tapage ne prend plus de clients, ce qui est une bonne nouvelle dans la mesure où ça sert beaucoup de gens. Et on doit se laisser sur cette nouvelle qui, j'espère, fera en sorte que des branches de Tapage s'ouvriront.
Je veux juste dire que ce n'est pas des participants travailleurs qu'on ne prend plus, c'est des bénéficiaires du projet Tapel parce qu'on est à pleine capacité.
Hey, magnifique. Merci, M. Mahoney. Merci
grand
de
plaisir,
faire ce que
merci
vous faites.
À vous deux. Vous êtes un beau duo.
Merci. Vous êtes toujours à Aime la vie avec Emmanuel Robitaille et chaque semaine, Robert Blondin nous parle du bonheur parce que Robert, le bonheur a une grande, grande place dans ta vie. T'as pas écrit juste un mot là-dessus, n'est-ce pas?
Non. Ben, on en parlera souvent, mais je vais expliquer maintenant pourquoi on en parlera si souvent. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? J'étais à la radio de Radio-Canada et je voulais essayer de comprendre les mécanismes du bonheur. Je fais surtout du documentaire radio, si on veut, à Radio-Canada. Le projet est le suivant. Moi, j'avais 40 ans à l'époque. J'en ai 75 maintenant. Il y a 40 ans, je me suis posé 40 questions. Je me suis dit, moi, il faut que je réponde à ces questions-là.
Que t'as écrite.
Bien sûr. Non, je sais écrire, là. Je parle, monsieur. Oui, oui. J'ai écrit ça.
Tu me surprendras toujours. Un homme surprenant.
Oui. Et je me suis dit, je voudrais comprendre pourquoi il y a des gens qui sont naturellement heureux, puis d'autres qui n'ont pas l'air d'être bien, bien de bonne humeur. Je vivais avec une femme à l'époque qui avait le verre toujours à moitié vide, le mien était toujours à moitié plein. On vivait à peu près les mêmes choses. Alors, qu'est-ce que c'était ces mécanismes du bonheur qui faisaient que des gens étaient heureux et d'autres pas? C'était à une époque révolue depuis longtemps à Radio-Canada où il y avait des budgets. J'ai eu 3 ans pour préparer la série de 150 émissions, c'est-à-dire 3 ans d'émissions. 3 ans de préparation, 3 ans de diffusion. On a engagé une douzaine de recherchistes à plein temps.
C'est une grosse équipe, là. C'est pas un petit projet, là.
On niaise pas avec le
parc, là. Non. Okay? C'est pas une petite question non plus, là, que
non,
tu
non,
posais,
non.
Là. Ouais.
12 personnes à travers les 5 continents, des spécialistes, différentes langues, qui cherchaient des réponses à ces 40 questions-là. Okay, pour avoir vraiment des conclusions. On voulait savoir, essentiellement, qu'est-ce qui caractérisait les gens heureux à travers toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les cultures et sous tous les climats. Est-ce que les gens, l'humain, a toujours été et est toujours heureux pour les mêmes façons avec les mêmes cheminements.
Il y a une évolution à travers ça, sur les bases.
Ce qu'on a découvert, c'est qu'il n'y en avait pas eu d'évolution. Ah. Les gens sont heureux pour les mêmes raisons. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ces recherchistes-là sont partis dans leur spécialité. Finalement, on fait des recherches. Au bout des 2 ans et demi, à peu près, ils ont soumis leurs conclusions. Pendant ce temps-là, moi, je suis parti pendant presque 3 ans autour du monde à rencontrer des gens heureux et qui savaient pourquoi ils étaient heureux. Ben alors, comment tu fais pour trouver ça? Tu t'installes pas sur un coin de rue? Bon, c'était une méthode en sociologie. Moi, j'ai une formation en sociologie. Pas de diplôme, mais j'ai la formation. Il s'agit d'aller dans un endroit, c'est une méthode qu'on dit symptomatique. Tu vas dans un endroit, tu es en Crète ou tu es en Ukraine, peu importe où, en Italie, en France, partout. Et tu commences à demander à l'épicerie, est-ce que vous connaissez quelqu'un d'heureux ici, etc. Puis tu vas dans un petit café, puis tu vas à l'hôtel, puis tu vas ailleurs. Et quand le même don revient...
Ça, tu cherches le représentant de la place.
Là où l'est. Quand le même don, tu sais, quand ça fait 4 fois qu'on te nomme Mme Tarantopoulos, tu dis... Il y a comme un consensus social autour de Mme Tarantopoulos. Mmh. Alors, tu vas voir Mme Tarantopoulos avec un interprète au besoin et tu jases avec elle. Tu lui poses les 40 questions et d'autres questions aussi. Tu essaies de comprendre ça a été quoi ses mécanismes, ça a été quoi ses outils pour être heureuse à ce point-là. J'ai fait ça avec 1800 personnes pendant 3 ans. Plus le travail de recherchiste à travers le monde. À travers le monde. Et là, on a fait pendant des mois, on a fait la synthèse de tout ça pour trouver les caractéristiques des gens heureux. On en a trouvé 6. Et vous ne le saurez pas parce que vous devrez écouter les autres émissions pour le savoir. On va en sortir une,
on fait
une
des
par
teasers.
Semaine. On va en faire une par semaine. Mais il faut dire une chose, que les conclusions qu'on a trouvées...
Vous avez eu une synthèse plus remarquable.
Mes travaux, quand je mets mes travaux, c'est nos travaux. Ben, j'ai dirigé des travaux, mais c'était vraiment une équipe.
Non, mais je ne te vois pas. Là, je parle de toi et ton équipe, Robert.
Je voulais pas sortir, parce que c'est très à la mode de sortir des livres, des émissions. Mm-hmm. Comment être heureux en chemise rouge, en prenant des pilules vertes, en mangeant du brocoli. Mm-hmm. Bon, c'est très à la mode. Mm-hmm. Moi, c'était contre ça que je m'insurgeais. Je voulais avoir des résultats qui soient scientifiques. Alors, ces conclusions, ces 6 caractéristiques, ces 6 comportements, finalement, envers le bonheur, si on donnait ça vraiment à des cliniques... Alors, j'ai donné ça à 2 cliniques en psychothérapie sur la côte ouest, une au Canada et l'autre à Seattle, aux États-Unis, qui ont appliqué avec des clients qui étaient des mélancoliques chroniques, des malheureux de tout le temps, là, de leur donner ces outils-là, de travailler avec eux pour voir des résultats.
Si
les résultats
s'applique.
Ont été extraordinaires à tel point que pendant des années, je ne sais pas si ça existe encore, que la méthode portait même mon nom là-dedans. Okay?
C'est pas peu dire.
Oui, c'est important.
C'est
important de le dire parce que ce ne sont pas des recettes. Quelqu'un dit oh, « ben, d'après moi, si vous faisiez ça », c'est pas ça. Là. C'est vraiment scientifique.
C'est appuyé empiriquement.
Et on va en parler au cours de ces émissions. Mais je vais simplement vous dire pour... la première conclusion de ces recherches-là.
Parce qu'on dira pas...
Quand tu travailles avec 12 personnes, puis qu'on est tous des cartésiens, on va avoir des définitions. On sait quoi la définition idéale du bonheur? On en a trouvé des centaines, de toutes sortes.
Elles abondent,
et on avait même mis des sous dans le pot, puis il y avait un gagnant, c'est celui qui trouvait la meilleure. OK? Ben, c'est le boss, c'est moi qui ai trouvé la meilleure. Je l'ai trouvé en Égypte. Un pharaon qui s'appelait Amenophis IV. Ça ne dit rien, hein? C'était le chum de Néfertiti. Parce que tu n'as pas vu la mini-série,
non,
probablement.
Non, moi, je connais Néfertiti, mais pas son chum.
Ben, c'était son chum. Et garde sa définition du bonheur. Je vais te l'expliquer après.
Je t'écoute attentivement.
Pendant 10 semaines, je vais te l'expliquer. Mm-hmm. C'est marcher dans la nature à la rencontre de tes tendresses. Toi, tu ne marches pas, tu roules, mais ça fait pareil.
Ah non, mais moi, je marche... Je marche en crime.
Ouais. Oui.
Je marche en dedans.
C'est ça. Non, non, mais ça pour dire que c'est...
Mais recommence parce que c'est important.
C'est la question de dire, bien sûr que je vais recommencer. C'est marcher...
Marcher dans la nature.
Dans la nature, à la rencontre de nos tendresses. Je sépare les mots parce que dans chacun de ces mots-là, chacun de ces mots-là correspond aux 6 conclusions qu'on a eues dans notre recherche.
Fait que là, on a comme
et
un
c'est
peu
de ça
un...
qu'on va parler de semaine en semaine.
Mais je trouve ça extrêmement important. Tu dis avoir étudié en sociologie.
Ouais.
pour une autre émission que j'anime ici aussi au Canal M, Emmanuel avec un M et deux L, où j'aborde des grands thèmes. J'ai étudié également en psychologie. J'ai presque mon doctorat en psychologie. Il manque une année. J'ai décidé d'aller suivre mon cœur et mon bonheur pour suivre ma passion, le chant. Mais la première émission a porté sur le bonheur parce que c'est une capsule que j'avais faite très intuitivement sur les réseaux sociaux d'une manière gratuite parce que je pense que c'est une question qui est fondamentale et qui mérite qu'on s'arrête à ça. Donc, l'énergie que tu as déployée pour moi est à la hauteur de la complexité, de la profondeur du terme, mais aussi de sa portée, parce que j'écoutais tout récemment, d'ailleurs, à la recherche du bonheur, de Pursuit of Happiness, avec Will Smith. Je ne sais pas si tu as écouté ce film-là.
Ben oui, je le connais.
Écoute, Brian May, mais non, mais c'est assez bon, Jean-Sébastien, rit de moi, Régis. C'est important, par contre, parce que les mots que tu as nommés, rencontre de notre tendresse, et moi, j'ai dit recherche, parce qu'il y a cette idée de chercher son bonheur et il y a l'idée de le rencontrer.
Toi, tu cherches encore, moi, je peux aller à la rencontre.
Ah, mais moi, j'ai comme, j'ai fini par, moi, c'est super plate de dire que finalement, le bonheur est l'illusion, j'ai ramené ça à une joie, pour moi. Ouais. Tu comprends?
Oui, mais là, on va se pogner là-dessus.
Ouais. Parce que j'ai hâte.
Parce que joie et bonheur, c'est loin d'être
très
pareil.
Différent. Très, très différent. Mais c'est correct. Puis je pense que juste le fait d'en parler, c'est un outil en soi.
Tu sais que le premier article de la Constitution américaine, c'est le droit à la poursuite du bonheur. Ben, pas le droit au bonheur,
non,
attention.
Non. Oui, oui.
À la poursuite du bonheur.
C'est quelque chose.
C'est pas le droit de pas de bord d'armes, hein? C'est à la poursuite du bonheur. Or, sais-tu que le bonheur est à la fois un droit... Et un devoir.
Et un de inné. D'ailleurs.
Non. Tu me suis pas, là?
Non.
C'est un...
ben parce que pour moi, c'est inné. C'est un droit inné de naissance.
Je vais t'en apprendre une. T'sais. Pourquoi c'est un droit? Parce qu'on sait toutes les relations qu'il y a maintenant entre la santé et le fait d'être bien dans sa peau.
Mm-hmm.
Alors, comme on a droit à la santé, on a droit aux outils de la santé. Alors, le bonheur est un outil de santé. Donc, on y a droit. Mais alors, pourquoi un devoir? Parce qu'il est contagieux. Et quand c'est contagieux, et quand tu as le devoir et que tu deviens heureux, ben ça irradie, puis ça fait du bonheur autour de toi. C'est important, le bonheur. Pas juste pour soi, pour les autres aussi.
Je suis tout à fait d'accord. Et chaque semaine, on va en parler davantage. On va s'ostiner un peu. Ça va être dans tout le bonheur
peut-être
du monde.
Peut-être moins que tu penses. Oh,
peut-être, qui sait. Merci de rester avec nous. Après la pause, on parle avec le docteur Baruel, une inspiration comme médecin. Chaque semaine à Aime la vie, on vous présente des gens qui changent le monde positivement. On vous présente des belles personnes, des personnes qui sont inspirantes et qui sont inspirées par ce qu'elles font, vu ce qu'elles sont finalement. Et cette semaine, le bonheur d'être médecin avec le docteur François Baruel. Docteur Baruel, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation-là. Vous êtes quelqu'un qui pratiquait la médecine et qui avait une vision de votre travail et des patients que vous avez traités très particulière. Tout d'abord, vous avez été orthopédiste dento-maxillo-facial.
Mm-hmm. Oui.
Donc, vous occupiez des bouches.
Des bouches, en général des bouches, oui. Après avoir été médecin de famille.
Généraliste,
voilà,
exactement.
Médecin généraliste.
Vous avez fait ça pendant combien d'années?
J'ai fait ça pendant médecin généraliste pendant 3 ans, et après avoir fait des remplacements. Et puis, malheureusement, je ne pouvais pas trouver justement ce que je cherchais dans la médecine générale. C'est assez bizarre hein, quand même.
Et qu'est-ce que vous cherchiez?
Je cherchais à rentrer en contact avec les patients. Et en fait, il y avait tellement de paperasserie et d'administration que finalement, on n'avait pas le temps de rentrer en contact avec eux. Et c'est curieusement, bizarrement, sur le fauteuil que j'arrivais à les faire parler beaucoup plus.
Ouais, spécialiste de la bouche, les
oui, voilà.
Faut être excellent quand même. Hein. Donc, vous avez fait ça et vous aviez un profond désir d'entrer en contact avec vos patients. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a amené tout d'abord à vouloir pratiquer la médecine? Parce qu'entrer en contact avec des humains, on peut le faire de différentes façons.
Oui, mais je pense qu'en fait, je voulais être médecin de campagne au départ. Mmh. Je voulais être médecin de campagne justement pour être au milieu d'une population et vivre avec eux, et puis être leur appui, leur oreille aussi. Et puis, ça a dérivé en... C'est difficile, hein, médecine de campagne. Hein. En France, c'était très compliqué, c'est très fatigant, c'est vraiment même épuisant. Et c'est tellement, c'est presque, on pourrait dire des galériens, en fait. Hein. Ils travaillent vraiment énormément. Donc, ils n'ont plus le temps de faire ça non plus. Ils n'ont plus le temps.
Parce que c'était aussi bien des travailleurs sociaux que des médecins en campagne.
C'est exactement ça, oui, oui. C'est exactement ça. Mais c'était la journée entière en voiture avec... de courir de l'un à l'autre, etc. Et c'était des travailleurs sociaux, mais pas complètement à l'écoute des autres, parce qu'ils n'avaient pas le temps.
Donc, c'est finalement la façon de faire, empiéter un petit peu sur le but de départ, finalement, là, tu sais, à un moment donné, quand tu n'as plus l'énergie ni le temps.
C'est ça.
Donc, tout ce qui est obstacle à la relation médecin-patient, que ce soit le temps, l'énergie, parce qu'à un moment donné, il faut respecter ses limites en tant qu'humain aussi, mais aussi la paperasse quand vous êtes arrivé ici et que vous avez travaillé.
Pourquoi cette spécialité?
Laquelle? La bouche?
Voilà. Oui.
Ah, ça,
dans
alors là...
maxillofacial.
Ça, alors là, c'est très amusant parce que justement, j'étais médecin généraliste et puis je m'apercevais que c'était vraiment pas très très bien. Et puis, que c'était pas très intéressant pour les raisons que je vous ai dites. Et en fait, j'ai fait mon service militaire parce qu'en France, on faisait un service militaire à l'époque. J'étais médecin généraliste, comme service militaire, et juste en face d'un dentiste. Et j'ai vu le matériel, tout ce qu'il faisait, c'était du bricolage. Et j'adorais ça, vraiment le bricolage,
un artiste,
le petit bricolage,
là,
j'adorais ça. Moi-même, je faisais de la marqueterie, du frisage, je travaillais le bois. Mmh. Et lui, il m'a commencé à me faire travailler des choses.
C'est incroyable.
C'est incroyable, mais ça me rassure pas trop, moi, si j'ai mal à la bouche quelque part.
C'est comme un mélange.
Bricoler, moi.
C'est un mélange de science et d'artiste. C'est magnifique, je trouve ça magnifique. Je vous cite, Dr. Baruel, via votre profession de médecin, vous dites que vous êtes profondément heureux de faire le bonheur autour de vous.
Oui.
Vous voulez que vos patients se sentent normaux et intégrés dans la société.
Normaux, j'en suis pas sûr, parce que chacun n'est pas normal.
On est-tu normal, vraiment? Non, mais c'est une question.
Mais en tout cas, peut-être même pas intégré, mais en tout cas à l'aise. Mm-hmm. Plus à l'aise et en tout cas pas inquiet. Inquiet.
Comment vous vous y prenez concrètement pour créer ça chez votre patient?
Je les laisse parler, en fait. Enfin, je les laissais parler. Je leur posais des questions, je les laissais parler. Et surtout, j'étais, je crois, tout simplement non-jugeant et bienveillant.
Mm-hmm.
Et finalement, ça vient assez vite. Hein. Il suffit de voir les patients 2-3 fois, voir qu'ils voient qu'en fait, je ne juge pas, qu'il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont comme ils sont et je les accepte comme ils sont. Et du coup, ils se mettent à parler, en fait.
Mais je pense que c'est très rare, du moins pour une opinion personnelle, de trouver sur... actuellement un endroit où on se sent complètement accepté et en sécurité pour qui nous sommes. Et d'offrir ça à des gens, Dr. Baruel, c'est pas commun, c'est pas banal.
C'était l'approche de notre autre invité aussi. Hein?
Exactement, exactement. Mais autre chose qui m'a étonné, vous dites également que vous voulez qu'ils se sentent séduisants. Qu'est-ce que vous voulez dire, pardon? Très intéressant quand même, moi ça m'accroche.
C'est en effet quand même, améliorer un sourire, refaire une bouche, ça permet aux gens justement de pouvoir sourire. Et de pouvoir sourire, de s'apercevoir qu'ils peuvent regarder et en montrant les dents, c'est un bonheur. Hein. Pour beaucoup de patients, c'est un bonheur. Je me souviens c'était pas une séduction, mais il avait déjà séduit sa femme. Mais c'est un type qui est arrivé, puis qu'il y avait une dent qui partait en avant, il voulait que je la remette pour son mariage en place. Et c'est vrai que le bonheur qu'il avait de se retrouver séduisant de nouveau, parce qu'il était, avec une espèce de rostre en avant, c'était pas très joli. Et ça, c'était vraiment c'était un bonheur de le voir heureux comme ça.
Mais c'est fou, donc, vous travaillez avec vos mains, de manière artistique et empathique, à faire sourire les gens et à les rendre davantage heureux en se regardant dans le miroir, tu sais.
Oui.
Un marchand de sourire, tu sais, et un magasin de sourire et les outils pour les installer.
C'est incroyable. C'est le retour que vous avez eu des patients, parce que là, vous l'avez vu, vous voyez ces sourires-là, mais dans leur discours, l'impact que vous avez eu chez vos patients, quelle était-elle? Vous avez réussi votre mission?
En fait, ma mission n'a pas été exactement celle que... Enfin, le résultat de la mission n'a pas exactement été celle que... Le résultat n'a pas été celui que j'espérais complètement, mais c'était quand même pas négatif. C'est quand même que mon successeur m'a dit que mes patients me regrettaient. Les amis qui sont allés voir le successeur m'ont dit que, justement, les gens étaient... Ou du moins, j'avais plutôt... C'est plutôt l'image que j'avais qui était une image de certitude d'être là, d'être un pilier pour eux.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, ils pouvaient compter sur moi, en fait, c'est ça. En fait.
Mais
ils pouvaient compter sur moi.
C'est triste parce que vous avez été regretté, mais vous avez été regretté parce qu'à quelque part, vous réussissiez très, très bien ce que vous faisiez à ce moment-là.
Mm.
On peut,
tu sais. Je réussissais normalement. Normalement.
Non, vous avez une belle humilité. C'est une belle humilité, disons-le. Mais parce qu'on le dit comme ça, parce que vous avez cessé votre pratique depuis 3 ans, actuellement. Mais vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez continué à offrir vos services via les réseaux sociaux. C'est vrai?
Oui, la lecture principalement, oui, bien sûr, oui.
Qu'est-ce que vous offriez aux gens? Parce que vous n'étiez pas capable de vous arrêter, finalement. Vous aimiez trop ça.
Non, oui, c'est vrai. Mais vous savez, à chaque fois qu'on fait plaisir aux gens, mm-hmm. je crois qu'on se fait plaisir.
Moi, je suis tout à fait d'accord, mais ce n'est pas tout le monde qui le ressent.
Oui, mais c'est le moteur. Je pense que c'est une espèce où on dit, c'est banal, mais on dit gagnant-gagnant, mais c'est vraiment ça. C'est de savoir que les patients, voir les patients heureux de venir chez vous dans votre salle d'attente de dentiste. Ça revient à ça quand ils ont des caries, heureux et de se dire, de les voir qui sont endormis dans un canapé, tellement ils sont cool. C'est quand même impressionnant ça. Et ça, c'est un bonheur pour moi.
Mais ça, on parlait de la contagion tout à l'heure et c'est ça aussi. C'est...
Est-ce que ça confère un pouvoir à celui qui peut faire ça?
Je pense que c'est pas loin, c'est vrai, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Ouais. Parce que c'est vrai que quand j'étais petit, je croyais que les médecins étaient des demi-dieux qui avaient le pouvoir de guérir, justement. C'est faux, bien sûr. Mais c'est quand même la possibilité de... C'est quand même une certaine possibilité. Mais on l'utilise positivement, évidemment.
Mais il est là, le pouvoir.
Je pense qu'il est là, quand même. Ouais. Mais il faut pas... Le gros problème, c'est que les médecins qui n'ont que le pouvoir, qui sentent qu'ils ont du pouvoir et qui se limitent à ça, ce sont pas des hommes.
C'est parce que le pouvoir est concentré. Maintenant que les curés n'y sont plus,
oui, c'est exact.
Les pouvoirs des curés sont aussi aux mains des médecins.
Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils ont le temps d'être curés et médecins aussi? C'est ça le problème.
C'est très bien. Puis aussi, il faut voir aussi la notion qu'on accorde au mot pouvoir, par contre. C'est pas tout à fait du tout péjoratif, en fait, d'avoir du pouvoir sur sa vie, d'avoir le pouvoir de changer les choses. Je trouve que c'est extrêmement bon.
C'est vrai. C'est exact. Oui, c'est vrai.
On peut regarder ça comme ça. Et là, actuellement, vous continuez par des lectures, oui, par votre présence sur les réseaux sociaux, entre autres Facebook, d'offrir votre présence, finalement, qui semblait être ce qui manquait aux gens. En tant qu'homme, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend heureux, maintenant?
Qu'est-ce qui me rend heureux, maintenant? C'est très grand comme question.
Oui.
Le plus grand bonheur, c'est de faire exactement ce que je veux au rythme que je veux. De pouvoir le faire au rythme que je veux.
La liberté.
La liberté et le temps. Et ça, c'est vraiment un luxe. C'est un luxe pour atteindre la sérénité ou atteindre un certain bonheur. C'est vraiment très impressionnant.
La liberté, en vieillissant, on l'acquiert assez bien. C'est le temps qui manque.
Plus ça va et moins on l'a.
Ah oui, bien sûr.
Parce que vous avez trop de choses à faire.
Non, parce que je ne comprends rien. On vieillit, on s'en va.
Et on se voit limité quand même. Ça s'appelle on est limité. On est limite.
Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes qui s'en vont en médecine, si vous aviez un mot à leur dire, dans leur motivation?
Dans leur motivation, c'est surtout d'oublier l'aspect technique. D'oublier l'aspect technique, parce que l'aspect technique est maintenant polyvalent, il est envahissant, il fait tout, il n'y a plus de diagnostic, il n'y a plus de discussion. Et puis, il faut dire aussi que si on passe à côté, si on ne fait pas de technique, on peut passer à côté de maladies. Mais il faut quand même ne pas garder la technique en premier. C'est ça qui est important.
On priorise l'humain avant, ben oui, avant l'outil.
C'est indispensable. C'est indispensable.
Docteur Baruel, vous êtes un exemple incroyable de gentillesse, d'humanité. Et merci d'avoir partagé votre passion et votre être avec nous aujourd'hui. Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Et prenez le temps d'avoir le temps.
Fais-moi penser à rien. Si je ressors en pleurant du bureau du médecin.
Quel bonheur d'avoir eu des invités comme ça aujourd'hui pour nous parler de ce qu'ils font puis de la passion qu'ils ont à faire ce qu'ils font. Et par rapport à ça, Robert, on a entendu le docteur Baruel nous parler de la médecine avec une humanité qui est de l'avant et qui
oui, c'est pas le seul. On n'est pas habitué à autant d'humanité avec le docteur Barrette, c'est sûr.
Est-ce que j'entends un peu... Serais-tu aigri un peu de ça?
Aigri?
Oui.
Noirci, oui.
Oui? C'est noir
non,
comme...
Non, mais je pense qu'on aborde maintenant au Québec la médecine sous une forme tellement fonctionnaire, tellement d'affaires, finalement. Mm-hmm. Les budgets sont plus importants que... Mm-hmm. Et le coût des médicaments, tout ce qu'on voudra, mais je veux dire, le rapport au patient disparaît. Et je comprends les médecins, ils sont débordés, ils n'y arrivent pas, il faut qu'ils fassent beaucoup trop. Mais quand on est du côté des patients, tu connais ça, mais je l'ai connu aussi.
Effectivement, j'ai été dans le milieu médical toute ma vie.
Parfois, on rencontre des gens, des intervenants qui sont extraordinaires.
Effectivement, moi, j'en ai
rencontré
plusieurs.
En dehors de leurs compétences professionnelles.
Ouais.
Mais il y a des fois, ils l'ont pas. Hein?
Effectivement, comme dans tout métier, mon cher, simplement que ici, on est dans le patient est dans une vulnérabilité, dans un état où ça nécessite un niveau de compétence interpersonnelle, ouais, mais je dirais. T'sais.
L'empathie, ça vient en option. Hein?
Ben, puis à ce moment-là, il faudrait peut-être regarder la formation qu'on offre. Mais je vous, puis par rapport à ça, Alexandre, là, je vais peut-être massacrer son nom, mais Wenger. Professeur associé à l'Institut Éthique, Histoire et Humanité de la Faculté de médecine de l'Université de Genève. Lui a instauré dans ses cours qui dispense aux futurs médecins, qui offre aux futurs médecins, il a instauré la mouvance qu'on appelle la médecine narratrice. Narrative, pardon. Cette approche, elle vise à justement créer une meilleure alliance thérapeutique, à mettre de l'avant cette alliance-là en se basant sur la littérature, des ateliers d'écriture avec les futurs médecins. Là. Ils vont lire des livres ils vont, sur des qui concernent des interactions médecins-patients, entre autres des histoires dans la littérature qui ont mis en jeu ces rôles-là. Et ils vont devoir étudier la relation qui s'établit entre ces gens-là pour justement soulever des notions d'empathie. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui aurait pu être fait? Etc., etc. Non seulement ça, il y a également des ateliers d'écriture où les médecins sont invités à écrire, après une formation, le cas d'un patient, mais non diagnostique, qui va être davantage basé sur une compréhension réelle, complète, holistique et sensible du patient. Qui vont avoir étudié au fil de ce moment-là. Ce
qui... De longtemps, on appelait ça des histoires de cas.
Exactement, tout à fait. Ben, on l'appelle encore, je vous confirme qu'on appelle encore ça comme ça.
Un bout de temps, j'ai pas été.
Mais c'est vraiment incroyable, là, je veux dire, personnellement. Puis ces médecins-là, quand ils écrivent leurs textes, ils peuvent même être publiés, puis il y a même des prix qui sont offerts par rapport à ça. Ils peuvent même soumettre pour recevoir des prix.
Donc, ils étudient ça.
Littéraire par rapport, exact, oui. Par rapport aux ateliers d'écriture et ce que ça aura donné comme œuvre littéraire par rapport à ça. À quand tu penses que ça va arriver au Québec, cette pratique-là?
Je ne sais pas, mais si tu regardes dans la formation, quand tu veux être psychanalyste, par exemple,
oui.
Tu dois obligatoirement subir une psychanalyse. Sans ça, tu ne peux pas être psychanalyste.
C'est ce qu'il conseille fortement.
Et c'est plus que conseiller, sans ça, tu ne l'es pas.
Mm-hmm.
Bon. Pour avoir ton doctorat en médecine, ça devrait être obligé d'être malade 3 mois. Puis t'as retrouvé dans le lit de temps
en temps.
On va quand
même toucher nos têtes, là, parce que toucher du bois un petit peu. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, dans la mesure où...
Quand tu changes de côté, là, mm-hmm. de l'autre côté de la barrière, t'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aussi.
Mm-hmm.
Et tu fais un médecin beaucoup plus humanisé à ce moment-là.
En souhaitant qu'on n'ait pas à finir par tomber malade pour développer notre empathie.
C'est ce que je veux finir. Ben, s'il le faut, on peut s'aider.
Bon, Robert, toi, cette semaine, qu'est-ce qui t'a amené à sourire? Qu'est-ce qui t'a fait du bien cette semaine?
J'ai trouvé quelque chose d'extrêmement rare. Moi, je suis fasciné par des gens qui ont toute leur tête, mais dont le corps est disparu.
Oui.
La pire des maladies, ça, c'est la maladie de Charcot. La maladie de Charcot, c'est que tu es emprisonné dans ton corps. Tu peux rien faire. Il n'y a rien qui fonctionne. Tu peux pas t'exprimer, t'es paralysé de partout, même pas cligner de l'œil.
Le clignement d'yeux n'est pas là.
Total, il n'y a rien. Ouais. Rien, OK? On se disait, ces gens-là, on ne peut pas communiquer avec eux. Bon, on vient de pouvoir communiquer avec eux, puis c'est là qu'on rejoint notre thème du bonheur.
Wow.
Par des procédés techniques d'implants, etc., je vais passer les détails techniques, ça ne nous regarde pas vraiment, puis on n'y comprendrait peut-être pas grand-chose non plus.
Mais n'en demeure pas moins qu'il y a...
Ils mesurent le taux d'oxygène dans certaines parties du cerveau. Parce que dans le cerveau, quand on est de bonne humeur, qu'on est d'accord, qu'on est bien dans sa peau, qu'on est joyeux, ça s'allume dans certains mm-hmm. cas. On en reparlera dans nos chroniques sur le bonheur.
Parfait.
Et là, on s'est aperçu que si on leur pose des questions, s'ils ont une réponse positive, si c'est oui, parce qu'ils n'ont aucun moyen de dire oui,
mm-hmm. okay,
c'est l'augmentation du taux d'oxygène, comme ça, dans ces zones-là, qui nous dit qu'ils sont d'accord ou heureux ou contents de ce qu'on dit. Pardon?
Dans le système limbique?
Je sais pas, tu connais mieux ça, mais moi, ça a l'air, mais regarde, je sais pas comment ils font ça.
Particulier, là.
Oui, ils embarquent là-dedans, ce qui fait que maintenant, ils peuvent leur demander des choses. Et au lieu du oui ou non habituel, ça fonctionne bien. Et là, les patients qui ont été des cobayes de cette expérience-là, on leur a demandé s'ils étaient contents, tout ça, parce qu'ils peuvent maintenant, bon, c'est minimal, mais ils peuvent communiquer avec les gens. Et quand on leur demande s'ils sont heureux de cette avancée-là, le taux d'oxygène en question est multiplié par 4 par rapport à ce qu'ils ont quand ils veulent simplement dire oui.
Ah, oh, mon Dieu, donc à un oui.
Absolument. Ça veut juste dire une chose, que prisonnier de ton corps avec la maladie de Charcot, tu réussis quand même à être heureux. Et quand on leur demande, par toutes sortes de oui et non comme question, pourquoi?
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, avec cette maladie-là, tu peux choisir, parce que tu peux même pas respirer tout seul, tu es sous respiration artificielle. S'ils veulent vraiment le faire ou s'ils veulent plutôt laisser tomber.
Parce que ces gens-là sont conscients et la conscience est là.
Total. Oh oui. Total. Ces gens-là étaient heureux d'avoir fait le choix, d'avoir sacrifié leur corps pour rester en vie, simplement rester en vie, même en pouvant rien bouger. Tu vois l'importance d'être en vie pour être heureux.
Est-ce que est-ce qu'on sait ce que ces gens-là ont trouvé dans la vie? Un bonheur, simplement être en vie, pour eux, c'est
ben on va
ça le bonheur.
On va aller en Suisse, là, puis on va voir les gens qui ont été expérimentés, puis on va te répondre après.
Ah, c'est incroyable.
Mais
c'est,
ça ouvre des portes intéressantes. Ça veut juste dire qu'il n'y en a pas des prisons de son corps à ce point-là. Toi, t'as un handicap qui est tellement... Je sais même pas si t'appelles ça un handicap, je sais pas.
Moi, Non, ah ben moi, j'ai eu une tumeur cancéreuse à la moelle épinière à la naissance, un ganglioneuroblastome qu'on appelle en L5, qui a écrasé un petit bout de femme. J'étais un bébé à ce moment-là, les IRM n'étaient pas apparus, j'ai 32 ans, donc je suis née en 85. En 86, les IRM arrivent. Moi, je suis restée j'ai pris un petit séjour à l'hôpital à naissance. Là. Je suis pas retournée à la maison avec ma mère. Je reste de là un petit peu. Mais on a fini par se dire que ça allait se résorber. On savait pas trop de quoi qu'on parlait de toute façon. Et finalement, on s'est rendu compte que j'étais supposée avoir une opération par la suite. Et l'opération n'a pas eu lieu quand ma mère est revenue dans la salle, dans la chambre de sa fille, finalement, et qu'elle avait pas de plâtre parce que j'étais supposée avoir des opérations aux hanches, dans les jambes. Aller voir le médecin, il est où le plâtre? Il dit oui, Madame Robitaille, on doit se parler. Finalement, ben, il avait passé un IRM et ils ont vu là la tumeur cancéreuse. Ils ont vu là que c'était une tumeur qui était extrêmement maligne, hein, 99,9%. Il y avait un vaisseau qui avait éclaté, il y avait des choses qui s'étaient passées. Donc, on a vraiment opéré, on a gratté, la radiothérapie a embarqué, on a gratté la colonne, on a ouvert le ventre également et au niveau des deux hanches pour aller tout enlever ça partout. Et quand je vous dis que je connais bien le milieu médical et que j'en ai rencontré des médecins, c'est vrai, de toutes sortes de spécialités. J'ai été nommée en rémission à 7 ans. Quand même. Et j'ai fini par vouloir marcher et avec la tête de cochon de ma mère et la mienne, ça a donné un beau combo que finalement, je peux me tenir sur mes deux jambes. Voilà. Donc, je pense que
Mais tu dois te déplacer en chaise roulante, c'est ça?
Ben quand que oui, parce que... Mais avant, mon fauteuil ne rentrait pas à la maison. Il y a des choses qui ont changé. J'ai eu un excès d'autonomie à 20 ans. Je suis arrivée dans un chemin qui était malheureusement arrosé de printemps, c'est-à-dire de tsloch. Et ma chaise passait pas, fait que je me suis levée, je l'ai pris dans mes bras, puis je l'ai tenue au-dessus de ma tête, puis parce que j'étais vraiment comme ça, j'étais drivée, moi j'ai une persévérance, puis j'ai quelque chose en dedans qui est un moteur pas pire. Et finalement, ben ça s'est avéré que l'eau s'est infiltrée dans mes souliers, j'ai pas de sensation au niveau des pieds. Et ça a un petit peu dégénéré, ce qui fait que je vis encore avec les conséquences de ce moment-là de mes 20 ans. Oui, tout à fait. Fait que maintenant, je traîne plus mon fauteuil qu'avant, plus avec un E à la fin. Mais tu sais, à un moment donné, tu te réinventes, tu sais. Puis ces gens-là, parce que moi, tu sais, je me dis oui, il y a une limitation, mais tout est une question de perception, tout est une question d'attitude. Moi, j'ai toujours dit Robert. Moi, il n'y a rien qui me dérange le plus que les gens qui me disent que je suis courageuse ou pire qu'eux. J'ai dit, moi, là, peut-être que ma situation ou mon mode de vie équivaut à quelqu'un qui a des migraines en continu. On n'a aucune idée de ce que les gens vivent ni comment ils le vivent. L'attitude, la vision qu'on entretient par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre vie, elle fait tout. Et je dirais que ces gens-là, c'est... que ça. On parle de la maladie de Charcot.
Charcot.
C'est la leçon que ces gens-là nous disent, c'est être en vie et apprécier le fait d'être vivant, d'exister dans un corps, quel qu'il soit, est suffisant pour moi.
Donc,
on est-tu prêt?
Tes limites à toi te permettent tout à fait de parler de bonheur comme n'importe qui. Hein?
Ah, moi, je m'en tenais. C'était presque un devoir, oui. On le répand, puis je voulais pas le faire toute seule. Fait que chaque semaine, tu vas être là avec moi pour en parler.
Avec plaisir.
De ce qui nous fait du bien, de ce qui est beau. Parce qu'il n'y a pas juste du pas beau dans la vie. Hein? On se rappelle que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. On peut choisir où on pose les yeux. Toujours. Robert Blondin, merci.
À la prochaine.
À la prochaine. Bonne semaine à tous.